le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je vous retrouve avec plaisir en ce dimanche matin. Vous êtes à l'écoute du service protestant sur France Culture. Aujourd'hui, nous accueillons le pasteur Corinne Ackley de l'Église protestante unie de France. Faut-il toujours craindre le regard des autres et agir en fonction de leur jugement? Il est bon de ne pas se sentir inférieur ou supérieur à l'autre. Ne vaut-il pas mieux s'autoriser à être simplement soi-même? C'est le propos du pasteur Corinne Ackley.
Merci et bonjour à vous qui nous rejoignez ce matin sur France Culture pour ce temps de recueillement et de réflexion. Je voudrais ouvrir ce moment par quelques notes du dernier album de Victoire Oberkampf qui nous invite à danser sur le son de la pluie.
Notre monde a tant pleuré. Le vent gonflait de peine. À quoi sert de s'épuiser? Quand on voit où ça nous mène. Mais il reste du temps à passer. Tous les deux encore vivre. Voudrais-tu ce soir me retrouver et danser sur le son de la pluie?
Unissons-nous à cette prière. Louange à toi, Dieu éternel. De la glaise du néant, tu nous dégages, Dieu de vie. Des chaînes de la peur, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de paix. Dans les ténèbres de nos doutes, tu nous éclaires, Dieu de vérité. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu éternel. Avant de nous plonger dans l'Évangile, je vous propose un petit détour par un conte populaire. Il n'a pas de nom d'auteur, et pourtant, tous ceux qui le racontent parlent d'une fleur nommée Bien-aise. Si j'avais écrit ce récit, je l'aurais nommé plutôt Myosotis, ou petite fleur bleue, petite fleur insignifiante. Mais jusqu'à présent, il n'existe pas de variante à cette histoire du roi et de la petite fleur bien-aise. Il y avait un roi, amoureux des fleurs, des plantes et des arbres qu'il avait plantés dans un jardin magnifique. Il prenait soin lui-même de son jardin. Il aimait, le soir, se promener dans les allées et se laisser ravir par la beauté des couleurs et la variété des parfums. Un jour, il dut partir pour un long voyage. À son retour, quelle ne fut pas sa surprise de constater que beaucoup de ses plantes et de ses arbres étaient en train de mourir. Le pin avait perdu presque toutes ses aiguilles. Le roi lui demanda ce qui était arrivé. Le pin répondit « J'ai regardé la vigne plantée tout près de moi et j'ai remarqué les magnifiques raisins qu'elle produisait pour faire le vin. Je suis devenu bien triste de ne pas pouvoir en faire autant. Alors je me suis mis à dépérir en me disant « Je suis tellement inutile qu'il vaut mieux cesser de vivre. » Le roi se tourna vers sa vigne et vit qu'elle était aussi en train de mourir. Il l'interrogea sur son malaise. « Pendant des jours, lui dit-elle, j'ai admiré le rosier et respiré le parfum subtil de ses fleurs. » Je me suis désolé à la pensée que jamais je ne pourrais produire une fleur aussi magnifique et un parfum aussi raffiné. Désespéré, j'ai commencé à ne plus me nourrir. Le roi continua l'exploration de son jardin. Il trouva, à sa grande surprise, une petite fleur bleue, toute rayonnante et pleine de vie, qui se nommait Bien-aise. Quel ne fut pas son bonheur de trouver enfin une plante en plein épanouissement dans son jardin. Il lui dit alors « Comment se fait-il que tu sois si belle, alors qu'autour de toi les plantes dépérissent ?» Et elle de répondre « Pendant un certain temps, je me suis désolée de constater que jamais je ne serai aussi grande que le pin avec ses magnifiques aiguilles, que jamais je ne répandrai le parfum de la rose. À me comparer ainsi aux autres, je suis devenue déprimée au point de vouloir me laisser mourir. Mais je me suis rappelé que c'est toi, ô roi magnifique, qui avais choisi de me planter ici. Alors je me suis fait la réflexion suivante. Je suis donc si importante à ses yeux qu'il m'ait choisi parmi tant d'autres. C'est alors que j'ai pris la décision de vivre et de devenir aussi belle que possible. Parfois je me dis, à quoi ça sert tout ça? Quelle est notre utilité? Que serait le monde sans nous? Est-ce que quelqu'un s'en apercevrait si nous disparaissions? Nous sommes tellement petits. Nos actions sont limitées par le manque de moyens physiques, financiers, matériels. Mon énergie, mon don, peuvent-ils servir à quelque chose? Mais bientôt, j'entends l'apôtre Paul et le réformateur Luther me murmurer « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors je relève la tête, je reprends courage. Nul don n'est trop petit, nulle fleur insignifiante. Nous sommes les petits serviteurs d'un roi magnifique, et lui, il nous voit avec un regard rempli d'amour. Cette histoire, c'est un peu notre histoire à chacun, chacune. Nous avons tous la tendance à nous comparer les uns aux autres, et on trouve toujours chez les autres des qualités que nous n'avons pas. Pour avoir une bonne estime de nous-mêmes, nous devrions cesser de nous mesurer aux autres, car faire dépendre des autres son estime de soi, c'est leur accorder un pouvoir accablant. Je deviens ce que les autres attendent de moi, ou ce que je pense que les autres attendent de moi. D'une certaine manière, je renonce alors à ma propre vie, mon originalité, ma vocation, ma personnalité unique, car je permets à mon entourage de décider de ma vie, de ce que je suis, de ce que je dois faire. Et si je m'autorisais enfin à être moi-même, en me situant simplement face à moi-même et face à Dieu. Un proverbe provençal dit « On ne peut pas changer la direction du vent, mais on peut changer l'orientation de la voile. » Nous voudrions toujours être au top de notre forme, aller mieux, avoir plus, augmenter nos capacités, être reconnus, atteindre un idéal élevé. Mais quand arrive un accident, une longue maladie ou une situation de handicap, de privation de liberté, et quand l'âge nous fait perdre certaines compétences, viennent alors le mal de vivre, la dépression, la dépréciation de nous-mêmes. Le pire étant de nous plonger dans la nostalgie d'un passé enjolivé ou de comparer notre situation à celle des autres. C'est ce qui arrive à la petite fleur bien aise, à me comparer ainsi aux autres. Je suis devenue déprimée au point de vouloir me laisser mourir. Mais je me suis rappelé que c'est toi, ô roi magnifique, qui avais choisi de me planter ici. Alors je me suis fait la réflexion suivante. Je suis donc si importante à ses yeux qu'il m'ait choisi parmi tant d'autres. C'est alors que j'ai pris la décision de vivre et de devenir aussi belle que possible.
Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat.
Ce matin, nous rejoignons Jésus et ses disciples en chemin vers Jérusalem. Et pour la troisième fois, Jésus annonce sa mort prochaine. Mais là encore, les disciples ne comprennent pas, mais ils sont en chemin. Évangile selon Marc, chapitre 10, à partir du verset 32 jusqu'au verset 45. Ils sont sur la voie, montant à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux. Ils étaient effrayés, et ceux qui suivaient avaient peur. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait bientôt lui arriver.
Voici que nous montons vers Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux étrangers. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le fouetteront et le tueront. Mais 3 jours après, il se redressera.
Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit
« Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»«
Donne-nous, lui dirent-ils, d'être postés, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit
« Vous ne savez pas ce que vous demandez. Avez-vous la force de boire la coupe que moi je bois ?» ou de plonger dans la noyade où je me noie ?»
Ils lui dirent, « Nous en avons le pouvoir. » Jésus leur répondit,
« La coupe que moi je bois, vous la boirez et vous serez plongés dans le naufrage où je plonge. Mais pour ce qui est de vous tenir sur ma droite ou ma gauche, ce n'est pas à moi d'en disposer. Ces places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. »
Les 10 autres, qui avaient écouté, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela auprès de lui et leur dit
« Vous savez bien que ceux qui s'estiment aptes à gouverner les nations les accablent de leur domination écrasante et que les grands leur imposent leur autorité. Or, ce n'est pas ainsi qu'il en est parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous, vous servira comme un diacre. Et quiconque veut être le premier parmi vous se fera esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir en diacre, et donner sa vie en contrepartie pour délivrer une multitude. »
Jésus marchait devant eux, ils étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Alors qu'il marche au devant, ses élèves semblent marcher à reculons, tremblants de peur, troublés par l'enseignement de leur maître. Et il y a de quoi. Cette montée sur Jérusalem est moins glorieuse qu'ils ne l'avaient espérée. Alors qu'il parle de sa mort imminente, 2 disciples demandent à participer à sa gloire. Stupeur, incompréhension, jalousie de ceux qui sont à l'écoute, déception, conflit d'intérêts, Jésus sème le trouble. 2 disciples osent presser le pas. Ils rejoignent Jésus et lui parlent. Les 10 autres traînent le pas. Mais ils entendent des bribes de la conversation. Et même, nous dit le texte, ils écoutent. Ils ne sont donc pas si loin que ça. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Comment ? 2 du groupe se sont désolidarisés pour aller briguer les faveurs du maître? À quoi rêvent-ils ces 2 frères? D'être placés l'un à droite et l'autre à gauche de Jésus dans sa gloire? Quelle ambition! Quel prétentieux! Pourquoi pas nous? Voilà le moteur de la jalousie et de la critique qui se met en place. Comme dans l'histoire du roi et de la fleur, à force de se comparer aux autres, on risque de se perdre soi-même et de s'enfoncer dans la déprime ou la rancœur. Jésus va se montrer très sévère avec les 10 autres qui jugent Jacques et Jean. C'est à cela que Jésus va parler de tyrannie et non pas aux 2 frères. Le texte dit « Les 10 autres qui avaient écouté commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela auprès de lui et leur dit « Vous savez bien !» Voici l'enseignement basé sur l'expérience que chacun peut vivre. Concrètement, chacun sait très bien quels sont les bons et les méchants chefs. Chacun a une opinion sur les méthodes de l'occupant romain pour faire régner l'ordre et la Pax Romana. Chacun connaît aussi des chefs de famille ou des responsables religieux qui tiennent en respect leur peuple par la contrainte, par les menaces. Vous savez bien. Jésus, en tout cas, ne les abandonne pas. Jésus les appela, nous dit le texte, les appela auprès de lui. Il ne laisse pas la rumeur s'intensifier dans son dos. Il ne laisse pas la mauvaise humeur, le mauvais esprit, se développer dans toute la classe. Jésus parle personnellement, solennellement, patiemment à ces hommes, sans aucune remontrance. Il veut les amener à comprendre quel esprit doit régner dans ce royaume qu'il annonce et qu'il incarne. Un esprit de service. Dans ce royaume, l'échelle de valeur est inversée. On n'y entend plus le martèlement des soldats, des chars d'assaut et des chevaux. On n'y entend plus le cri des orphelins et des esclaves opprimés. Jésus marchait devant eux, ils étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. À Jacques et Jean, qui seuls osent s'approcher de lui, Jésus rétorque « Avez-vous la force de boire la coupe que moi je bois ou de plonger dans la noyade où je me noie ?» Ils lui dirent « Nous en avons le pouvoir. » Dans la plupart des traductions de ce passage, Jésus parle de la coupe et du baptême. « Je n'ai pas opté pour cette solution » qui fait trop vite référence à la Sainte Cène et au sacrement du baptême. À l'origine, et en grec classique, le mot baptême signifie tout simplement plongeon, immersion, baignade. Ce n'est qu'après la résurrection, la Pentecôte et l'Ascension qu'il va être détourné de son sens premier pour devenir l'acte d'engagement des disciples du Christ. Aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, comme le dit Marc. Matthieu rajoutera « Faites dans toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant toutes les prescriptions que je vous ai données. » Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul compare le baptême des chrétiens à une plongée dans la mort du Christ. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par l'immersion en sa mort, afin que de même que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » En son sens premier, le baptême est d'abord une plongée dans les eaux, et les eaux peuvent s'avérer dangereuses. Comme celle du baptême, l'évocation de la coupe doit être elle aussi rapprochée de la mort. L'image de la coupe symbolise la destinée personnelle. On trouve cette image dans le psaume 16. « Seigneur, ma part d'héritage est ma coupe, de toi dépend mon destin. » Elle peut être coupe d'action de grâce pour remercier Dieu du bonheur, comme il est dit dans le psaume 116. « Comment rendrai-je au Seigneur Dieu tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe de la délivrance et j'invoquerai le nom du Seigneur Dieu. » Mais ce peut être aussi la coupe de la souffrance et de la mort. Jésus, au mont des Oliviers, dira « Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Notre langue française ne parle-t-elle pas de boire la coupe jusqu'à la lie pour décrire le drame de celui qui touche le tréfonds de la souffrance ? Au IIe siècle, l'évêque Polycarpe, qui va mourir sur le bûcher, priera ainsi. « Seigneur, Père de ton enfant bien-aimé Jésus, je te bénis de m'avoir jugé digne d'être compté au nombre de tes martyrs et de prendre part avec eux à la coupe de ton Messie pour la résurrection. » Jésus marchait devant eux, ils étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Parlons donc des deux frères qui se sont approchés. Dans ce même chapitre 10 de l'Évangile selon Marc, à peine trois versets plus haut du texte que nous lisons aujourd'hui, Pierre adresse une demande à Jésus et lui déclare « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus leur fait alors cette promesse. « Sincèrement, je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Et donc, cette promesse, les deux fils de Zébédée l'ont entendue, et ils s'approchent de Jésus avec leur demande. « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Ce qui est intéressant surtout, c'est la manière dont Jacques et Jean sollicitent Jésus. Ils lui demandent s'il leur est possible de demander. « Maître, nous voudrions que tu exauces la demande que nous souhaiterions te faire. » Ils sont dans la situation de tous les pauvres qui ont demandé quelque chose à Jésus. Et Jésus leur fait, comme aux autres, son unique réponse. « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ?» Il autorise ainsi l'expression de leur désir. Il aurait pu leur dire que ce n'est pas le moment, qu'on ferait mieux de parler après la marche, à la prochaine étape. Il accepte d'entrer en dialogue sur le chemin. Et par deux fois, il va leur dire non. D'abord, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et ensuite, ces places-là, ce n'est pas moi qui les attribue. Jésus n'agit pas en despote, répartissant les charges honorifiques et ministérielles entre ses proches, acceptant le lobbying ou le favoritisme. Il ne s'arroge pas les pleins pouvoirs. Il s'en remet au Père. Par contre, il les lie à son propre chemin. La coupe que je dois boire, vous y boirez. Et le baptême dans lequel je suis plongé sera aussi le vôtre. C'est une véritable alliance qui se noue entre eux, chacun ayant conscience de devoir aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ce baptême sera une plongée dans les crachats, les injures et le venin de la cruauté humaine. Ce que demandent ces deux frères, ce n'est pas un droit, mais un service. Il quémande une grâce, celle de servir à ses côtés. Le texte grec de cet évangile de Marc dit qu'il souhaite se tenir posté à ses droites et à ses gauches. Il ne s'agit pas de s'asseoir, de siéger et dominer, mais de défendre et protéger. Jacques et Jean se portent volontaires pour entrer au service actif. Un combattant portait l'épée à la main droite et le bouclier au bras gauche. Gauches et droites sont ici au pluriel, comme pour bien marquer qu'il y a une multitude de places et de façons de les occuper. C'est un travail d'équipe où nous sommes également conviés. Il y a, dans l'équipe bouclier, tout ce qui relève du soin aux personnes, de l'attention aux plus faibles, les gardiens, les parents et les protecteurs, les prieurs aussi, les veilleurs qui tiennent bon avec persévérance contre tous les mauvais coups de la vie. Puis vient l'image classique dans la Bible de l'épée de la parole, celle qui se déploie contre l'adversaire, père du mensonge, celle qui pourfend l'obscurité et l'obscurantisme. Ceux qui manient des épées doivent être agiles, précis, formés aux arts martiaux. Je pense ici aux chevaliers ou à ceux qui pratiquent l'escrime. Et il faut être pratiquant pour réussir sa mission. Il faut être volontaire pour se porter au-devant des misères et des injustices, s'avancer sur des terrains inconnus, supporter comme Jésus les injures et les crachats. C'est pourquoi Jésus demande « En avez-vous la force ?» Ils répondent « Nous en avons le pouvoir. » Derrière ces mots « force » et « pouvoir », c'est le mot « dynamis » en grec, la force motrice, la puissance énergétique et dynamique. Ni l'un ni l'autre ne convoitent une hégémonie tyrannique. Ils veulent seulement être affectés au service d'ordre dans la garde rapprochée. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce royaume dont parle Jésus n'est pas un lieu, mais un état d'esprit. Il n'est pas de ce monde. Il ne fonctionne pas avec les stratégies du monde. Le pasteur Marc Pernaut le souligne bien dans une prédication d'avril 2017 à l'oratoire du Louvre. Il dit « La demeure du Christ est une façon d'être. Ce n'est pas comme une pièce qui ne pourrait contenir qu'un nombre limité de personnes. C'est comme de demeurer en paix. Il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Car la paix s'étend à mesure que d'autres nous y rejoignent. On s'y sent même d'autant moins à l'étroit que nous sommes nombreux à être dans cette paix. » Et il conclut. Alors, est-ce arrogant d'espérer d'être à droite ou à gauche de Jésus dans sa gloire? C'est ambitieux, certes, mais ce n'est pas arrogant, car tout dans les paroles de Jésus nous dit que nous en sommes dignes, chacune et chacun. Les premiers chrétiens se nommaient entre eux « ceux de la voie » avec un « e » final, c'est-à-dire « en bonne voie ». Nous sommes en marche et Jésus marche en avant. Nous pouvons marcher à reculons, comme les premiers élèves du Maître. Nous pouvons aussi aller de l'avant, sans crainte, sans jalousie, sans complexe d'infériorité ou de supériorité. Jésus nous attend et nous appelle tels que nous sommes, ni meilleurs ni pires que les autres, simplement nous-mêmes, prêts à vivre à ses côtés. Que le Seigneur bénisse votre chemin et votre foyer, qu'il vous accorde sa paix qui surpasse toute intelligence, qu'il vous donne d'avancer joyeux dans sa clarté.
Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné.
Ce service protestant du dimanche matin sur France Culture s'achève. Oser être soi-même. C'était le thème de la méditation du pasteur Corinne Acli de l'Église protestante unie de France. Merci à vous pour votre écoute. À la réalisation de cette émission, Clotilde Pivin, à la prise de son, Manu Couturier. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Si vous souhaitez réécouter cette méditation, je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Vous désirez recevoir le texte de ce dimanche ou nous faire part de vos réflexions? Je vous propose de nous écrire au service radio de la Fédération protestante de France. Nous sommes au 47 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris. Restez à l'écoute de France Culture, à 9h le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wakni. Bon dimanche à tous et à chacun.
Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.